Bonjour à chacune et à chacun. Soyez les bienvenus dans le culte, dans ce culte de l'Ascension. On a l'habitude de dire que vous soyez présents depuis longtemps à l'EM ou nouveaux parmi nous, je ne le dirai pas. Un bonjour tout particulier à ceux qui nous regardent en streaming. Et nous souhaitons la bienvenue à Véronique, Alexa, co-pasteur à l'église de Cologny, qui va nous donner le message ce matin. Je lirai dans Marc 16, verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. L'ascension de Jésus est un moment extrêmement significatif qui invite à la fois à la contemplation et à l'action. Ce départ visible ne signifie pas un éloignement, mais une présence plus grande spirituellement et pleine de promesses. Jésus retourne auprès de son Père, mais il ne nous abandonne pas. Au contraire, il inaugure une nouvelle ère, celle où le Saint-Esprit agit pleinement en nous. Cet acte nous ouvre à une nouvelle marche où le pouvoir de Jésus sur toute chose nous donne espoir, force et confiance. L'ascension confère aussi une dimension missionnaire à notre vie, puisque Jésus charge ses disciples d'être des témoins. Je m'adresse aux enfants. Oui. Qu'est-ce qu'on rappelle ce jour de l'Ascension? C'est juste. Jésus est monté au ciel. Elle a lieu combien de jours après Pâques? Combien de jours après Pâques? 14, ouais, il y a bien 4 dedans, c'est juste. Mais c'est 40. Ah, joli, 40 jours après Pâques. Et pourquoi Jésus n'est pas remonté tout de suite? Dès qu'il est ressuscité, il aurait pu partir au ciel. Pourquoi il est resté encore 40 jours avant de monter au ciel? Eh bien, je vais vous dire la réponse. Pour se montrer à plus de 500 personnes, il est resté sur la terre, donc 500 témoins qui ont été présents là et qui ont vu sa résurrection et son élévation vers son Père. S'il était parti tout de suite, personne ne l'aurait vu. Personne n'aurait pu dire, mais on a été témoins, oui. Qui?
Marie.
Marie, oui. Oui, oui, bien sûr. Mais ce serait-il qu'une seule personne? Une ou deux? Là, c'est plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes. Il est vraiment, donc c'est la preuve qu'il est vraiment ressuscité. Donc, ils ont vu Jésus monter au ciel, puis il a disparu de leur vision. Il est monté au ciel, il a disparu complètement. Après sa résurrection, Jésus est déjà apparu aux disciples, puis il a disparu. Vous savez quand? Ben, je vais vous dire. Jésus, c'est le premier qui a expérimenté ce qu'on pourrait appeler de la téléportation sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples. Il marchait avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, il a disparu. Les disciples, ils ont dit, mais il est où Jésus? Il est parti où? Hop, il était loin. Et puis, simplement, puis il a apparu donc à ses disciples qui étaient rassemblés. Je vous lis simplement dans Jean 20, verset 19. Ce même dimanche, dans la soirée, Les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes. Verrouillé les portes, toutes les portes étaient fermées, verrouillées, à clé. Verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vient, il se trouve là au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Les portes étaient verrouillées, il était là avec les disciples au milieu d'eux. Donc il est arrivé. Il a traversé les portes et il était avec eux. Entrons dans ce temps de culte avec la conviction que, même invisible, Jésus est présent et actif parmi nous. Son ascension nous appelle à vivre avec assurance dans son royaume en attendant son prochain retour glorieux. J'invite le groupe.
Bonjour à toutes et à tous. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir nous tenir ensemble dans la présence de notre Seigneur pour le louer. Dans ce premier chant, nous élevons le nom de Yeshua, Jésus en hébreu, au-dessus de tout. Nous proclamons qu'il est notre Sauveur. Lui, le Roi, est venu sur cette terre par amour. Il a porté nos péchés, il a porté nos douleurs. Sur la croix, il s'est livré, prenant sur lui le poids du monde entier afin de nous réconcilier avec Dieu, de briser toute condamnation et de nous ouvrir le chemin de la vie. Oui, Jésus est vivant, il a vaincu la mort et aujourd'hui encore son amour se répand sur tous ceux qui croient. Alors d'un même cœur, proclamons-le ensemble, Dieu est notre Sauveur. Levons-nous et chantons Dieu Sauveur.
Tu es le Dieu sauveur, notre Dieu.
après avoir proclamé que Dieu est notre Sauveur, souvenons-nous aussi de son cœur pour nous. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, il ne nous tourne jamais le dos. Au contraire, il s'approche, il pardonne, il relève et nous apprend à marcher comme lui. Dans un monde marqué par les tensions, les divisions et les conflits, Jésus nous appelle à vivre autrement. Il nous montre le chemin, celui de l'amour, du pardon et de la paix. Il fait de nous des artisans de paix, même à contre-courant, même quand cela coûte. Alors, ouvrons nos cœurs et laissons-le nous transformer. Chantons ensemble « Artisans de paix ». Après tout cela, comment ne pas répondre à un tel amour ? Jésus nous appelle et nos cœurs répondent, nous voulons te suivre. Te suivre dans la joie quand ta lumière nous inonde, mais aussi dans la nuit quand notre âme traverse la vallée du deuil et de l'ombre. Même là, tu es avec nous. Qu'importe le chemin, qu'importe le prix, une seule décision brûle en nous, Jésus, je te suivrai. Parce que tu as donné ta vie pour moi, alors je veux vivre pour toi, pleinement, sans retour en arrière. Oui, Seigneur, je te suivrai. Proclamons-le de tout notre cœur. Jésus, je te suivrai.
la joie quand le soleil inonde sous les monts où ta présence abonde. Oh,
Jésus, je te suivrai.
Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh,
Jésus, je te suivrai. Car tu es mon pouvoir. Je vivrai pour toi.
Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver.
Jésus, je te suivrai.
Que la vie te servirait malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh,
Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder.
Tu as souffert pour me sauver.
Jésus, je te suivrai.
Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh,
Jésus, je te suivrai, car tu es mort,
car tu es mort pour moi.
Je vivrai pour toi. Je t'aimerai puisque la vie te servira malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai.
Voilà, ça va être le moment pour les enfants de descendre à aux potes. On remercie encore Rebecca qui s'occupe d'eux depuis tant de dimanches maintenant. Et on va encore prier pour vous. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes tous ces enfants et on te demande vraiment ta bénédiction sur eux pour ce moment où ils vont entendre parler de toi. Amen.
Allez, bonne école.
Je prierai encore pour Véronique. Pour son message. Seigneur, nous nous remettons à toi, nous te remettons particulièrement Véronique, pour qu'elle puisse donner son message inspiré de ta parole. Nous voulons aussi que nos cœurs, à tous ici présents, puissent être ouverts et recevoir ce message qui vient de toi. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être là parmi vous ce matin. On m'a invité à me présenter en quelques mots. Donc je suis Véronique Alexa, je suis pasteur de l'église de Colonie, lisseur de la Frée avec ma collègue Virginie Moret. Je suis mariée avec Théophile, on a 3 enfants, encore petits. Et voilà, je suis contente d'être là parmi vous ce matin parce que je suis pasteur seulement depuis quelques mois, mais membre de la communauté de Colonie depuis un paquet d'années et je n'avais jamais eu l'occasion de vous rencontrer. Je suis ravie d'être là et notre église aussi se réjouit d'accueillir votre pasteur Philippe. ce matin. Ces prédications sont toujours très appréciées. Alors, on vient de louer le Seigneur tous ensemble et on va rester dans la louange avec le texte de ce matin. Je vous propose en effet qu'on se mette à l'écoute du psaume 92. Un psaume qui, vous allez l'entendre, se présente d'emblée comme un chant de plus ce matin. Un chant à entonner le jour du sabbat, c'est-à-dire un jour de repos et de célébration comme nous en vivons un ce matin. Alors comme on ne sait pas sur quelle mélodie ce psaume était chanté à l'époque où il a été composé, je vous propose de le lire maintenant. Psaume, chant pour le jour du sabbat. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth et au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours, Éternel. Car voici tes ennemis, Éternel, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosée avec une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Amen. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. C'est sur cette déclaration, à la fois joyeuse et profonde, que s'ouvre notre psaume. Il est juste et agréable, nous dit le psalmiste, de chanter Dieu et de proclamer qui il est tout au long de la journée. On se demande parfois comment bien employer notre temps durant la journée. On s'interroge sur nos bonnes et nos mauvaises habitudes, sur nos priorités. Eh bien, notre psalmiste, lui, il a médité la question et il nous partage ici le fruit de ses réflexions. Pour lui, il est bon d'annoncer dès le matin la bonté de Dieu et il nous invite, dès que nous sommes réveillés, à nous tourner vers cette bonté pour nous en réjouir et pour nous y appuyer. Le terme de bonté qui est utilisé ici, il tente de traduire un terme hébreu qui a une signification tellement riche qu'on a de la peine à la rendre en français. Notre texte dit qu'il est bon d'annoncer la bonté de Dieu, mais on pourrait tout aussi bien dire qu'il est bon d'annoncer sa grâce, son amour fidèle ou sa compassion qui le pousse à l'action pour nous. Notre psaume commence à peine, mais il a déjà de quoi doucement nous interpeller. Comment est-ce que nous débutons nos journées. Quand nous ouvrons les yeux, sur qui, sur quoi est-ce que nous fixions nos premières pensées? Avec quels mots, quelles paroles est-ce que nous nous lançons dans nos activités? Alors parfois, on l'a chanté tout à l'heure, le soleil nous inonde, on est dans la joie, la reconnaissance, la louange jaillit spontanément. Puis d'autres fois, les mots qui débordaient hier de notre cœur restent comme coincés quelque part au milieu de notre tristesse, de notre anxiété. Mais pour le psalmiste, ça ne change rien. Chaque matin, je l'ai dit tout à l'heure, par son esprit, Dieu est là. Et on peut compter sur lui et sur son amour indéfectible pour ceux qui se confient en lui. Et même dans nos moments les plus difficiles, Dieu nous offre toujours la sécurité d'une relation constante avec lui. Vous connaissez peut-être ce verset célèbre de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains qui nous dit que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même à l'aube d'une journée très compliquée, on peut être assuré que rien de ce qu'on pourra y vivre ne pourra nous séparer de la bonté, de la grâce, de la compassion de Dieu pour nous. Il est là, et quoi qu'il se passe, il ne nous abandonnera pas. C'est sur cette base solide entre toutes que nous pouvons démarrer notre journée avec reconnaissance et avec confiance. Une reconnaissance et une confiance qui peuvent nous accompagner jusqu'à la nuit tombée. Le psalmiste le dit, il est bon d'annoncer pendant les nuits ta fidélité. Alors, la nuit, en principe, on dort. En principe seulement. On a parfois un bébé ou des jeunes enfants qui ont besoin de nous, tous les jeunes parents ici, et les parents un peu moins jeunes qui ont une bonne mémoire, savent quelque chose. Puis parfois c'est un problème de santé, le nôtre, ou celui d'un proche, ou les soucis qui nous tiennent éveillés. Et dans ces moments-là, il arrive que le silence, l'obscurité amplifie ce sentiment de solitude, ou la douleur, l'inquiétude qu'on peut ressentir. Et il est bon alors de se rappeler avec le psalmiste qu'il y a quelque chose, même au cœur de la nuit, qui ne nous fera jamais défaut, qui ne nous sera jamais enlevé. C'est la fidélité de Dieu, toujours présent, toujours disponible, toujours vigilant. Il y a un autre psaume, le psaume 121, qui le dit, « Il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui te garde. » On ne réalise pas toujours l'immense privilège qu'on a de pouvoir nous adresser à Dieu à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, quelles que soient nos circonstances. On trouve ça évident de pouvoir courir, nous jeter dans ses bras, nous réfugier dans ses bras à chaque instant. Alors que c'est en réalité un tel cadeau, une telle grâce. Nous avons un Dieu tellement accessible, tellement accueillant. Dieu n'est jamais en mode avion. On ne tombe jamais sur son répondeur. Il n'y a rien ni personne pour filtrer ses appels. Non, si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons un accès direct au Père. Et nous savons que Dieu est toujours à notre écoute et qu'il répond toujours présent. Il y a bien là de quoi louer Dieu. Pendant les nuits, comme durant nos journées. Parce que en déroulant le fil d'une louange qui part de l'aube et qui se poursuit jusque dans la nuit, le psalmiste il nous invite en fait à une louange ininterrompue, à une célébration continue de Dieu et de la joie qu'il y a à vivre avec lui, du bonheur qu'il y a à pouvoir compter sur lui. Il est bon de louer Dieu en tout temps, à chaque instant. Voilà ce que proclament les premiers versets de notre psaume. Mais notre psalmiste ne va pas en rester là. La louange semble tellement l'habiter et le déborder. Il a encore d'autres choses à nous dire à ce sujet. Alors il continue, il dit « Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. » Le psalmiste contemple le monde prodigieux que Dieu a créé et qu'il maintient encore aujourd'hui. Il se souvient de tout ce que Dieu a fait pour les hommes et en particulier pour son peuple. Et il sait que Dieu interviendra un jour pour mettre un terme à toute injustice. Le psalmiste regarde donc cette action de Dieu, passée, présente et à venir. Et ce qu'il entrevoit, ce qu'il comprend, ça le fascine. que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes. On dirait presque que les mots manquent au psalmiste pour exprimer tout ce qu'il saisit de la grandeur, de la puissance de Dieu, tout ce qu'il perçoit de sa sagesse et de son intelligence. Il est là sans doute le secret de l'enthousiasme, de la louange du psalmiste. Il est dans l'émerveillement qu'il ressent pour Dieu. L'émerveillement, vous savez, c'est ce sentiment qu'on éprouve quand on admire quelque chose ou ici quelqu'un que l'on sait tellement plus grand que soi, qui dépasse tout ce que l'on peut en comprendre. Cette admiration, cet émerveillement bouillonne tellement dans le cœur de notre psalmiste qu'il ne peut pas le contenir. Il ne peut pas le retenir. Il ne peut que l'exprimer. Il ne peut que louer. Et parce que le psalmiste ressent si fort la majesté, la sagesse, l'amour de Dieu, il est dans l'incompréhension devant ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu, qui par conséquent ne le respectent pas et font le mal. Il n'y va pas de main morte d'ailleurs. Il dit que ces gens sont des idiots qui n'y connaissent rien, des personnes stupides qui n'y comprennent rien. Il les compare à de l'herbe qui pousse abondamment, mais qui ne dure jamais très longtemps dans la chaleur du Moyen-Orient. Et le psalmiste se réjouit. Car même si le mal prospère autour de lui, on voit que les choses d'ailleurs n'ont pas changé aujourd'hui, il le sait, le mal ne l'emportera pas, car Dieu règne. Il dit, mais toi, tu es le Très-Haut, pour toujours, éternel. Alors oui, certains sont loin d'éprouver de l'émerveillement pour Dieu, nous dit le psalmiste. Ils sont aveugles, ils ne voient pas Dieu et ce qu'il accomplit. Mais on aurait tort, en tant que chrétien, de se croire à l'abri de certains problèmes de vue. On a tendance à oublier facilement ce que l'on sait de Dieu et même ce qu'on a pu vivre avec lui. Peut-être que ce qui nous émerveillait au début de notre relation avec Jésus-Christ, qui suscitait en nous une louange pleine de joie, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne nous fait plus grand-chose. Il arrive, c'est même quelque chose de très fréquent, qu'on s'habitue à Dieu, à son amour, à sa grâce, à toutes ses bénédictions. On peut s'accoutumer à contempler la gloire de Dieu. Et ce qu'il est, ce qu'il fait, ça peut nous sembler presque normal et ordinaire. C'est là que l'enthousiasme du psalmiste vient nous interroger. Où est-ce que toi et moi, on en est de notre émerveillement pour Dieu? Est-ce qu'on est encore ébloui par ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ? Lui qui est Dieu, il est venu vivre avec nous, mourir pour nous, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, que nous puissions vivre une vie libre, pleine, épanouie avec lui pour toujours. Est-ce qu'on est encore saisi d'admiration devant la créativité, la générosité, la bonté et la fidélité de Dieu? C'est une question importante, parce que derrière cette notion d'émerveillement, il y a un véritable enjeu spirituel. C'est Paul David Tripp, vous connaissez peut-être, qui a parlé de ça dans l'un de ses livres qui s'appelle « Créer pour s'émerveiller ». Il dit que si on n'est plus captivé et fasciné par Dieu, immanquablement, on le sera par autre chose. Si nous ne sommes plus éblouis par Dieu, notre cœur cherchera ailleurs la joie et la satisfaction de l'émerveillement. Or, Dieu seul peut véritablement nous émerveiller. Et tout ce qui tend à le reléguer sur le côté risque bien de nous trouver un jour déçus et trompés. Il y a derrière cette notion, cette question de l'émerveillement, un combat à mener. Et si nous avons perdu notre émerveillement, il nous faut partir, le reconquérir. Car heureusement, pour nous, l'émerveillement, c'est une attitude de cœur qu'on peut regagner si on l'a perdue. On peut même la développer, la faire grandir. On peut s'entraîner à être émerveillé. Et c'est peut-être pas pour rien que notre psaume, c'est un chant destiné à être chanté lors du sabbat. Parce qu'en effet, pour s'émerveiller, rien ne vaut ces temps, ces moments de retrait, d'arrêt. On peut prendre le temps de regarder
de contempler, de réfléchir, où on peut méditer avec les hommes et les femmes de la Bible qui se sont émerveillés avant nous. On peut prier aussi, que Dieu nous accorde par son esprit un regard neuf sur lui. Rien ne vaut ces temps de rencontre, de culte, où nous pouvons nous entraîner les uns les autres dans l'adoration, dans la louange d'abord évidemment. On chante évidemment pour honorer Dieu, mais on chante aussi pour s'édifier les uns les autres, pour s'encourager les uns les autres à admirer le Seigneur. Il y a d'ailleurs là un bel objectif, un beau programme pour toutes les équipes de louange de nos églises, nous conduire les uns les autres dans l'émerveillement. C'est un beau programme aussi pour nous qui participons à cette louange. Mais à vrai dire, tous les moments du culte peuvent nous apprendre, nous aider à nous émerveiller en nous rendant attentifs à des aspects de Dieu qu'on n'est peut-être pas habitué à louer, en nous rendant attentifs à des bénédictions qu'on a peut-être oublié de remarquer. Et puis, dans l'Église, comme dans nos vies personnelles, on peut aussi grandir dans l'émerveillement en le transmettant à ceux qui nous suivront. Le psaume 145 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Il ne faut pas hésiter à saisir, à continuer à saisir toutes les occasions qui se présentent pour entraîner nos enfants, nos petits-enfants, à voir, comme le dit le psalmiste, combien les œuvres de Dieu sont grandes, combien ses pensées sont profondes. Tous les enfants de nos églises, tous les enfants de votre entourage ont besoin d'adultes qui les aident à voir dès leur plus jeune âge la gloire, la splendeur, l'amour de Dieu, pour qu'ils puissent un jour en parler à d'autres à leur tour. Parce qu'une chose est certaine, la louange, elle agit profondément dans nos cœurs. C'est ce que le psalmiste nous explique dans la toute dernière partie de son chant, dans ce que certains ont appelé une leçon de botanique spirituelle. Dans les derniers versets de notre psaume, le psalmiste nous rapporte ce qu'il a pu observer dans la vie des croyants qui honorent et qui louent Dieu. Et il les compare à des arbres. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, si j'étais un arbre, de quel arbre est-ce qu'il s'agirait ? Est-ce que vous seriez un pommier, un arbre fruitier, pas très grand, très imposant, mais qui partage son fruit à tous ? Est-ce que vous seriez un sapin qui pousse tout en haut des montagnes ? Est-ce que vous seriez ce chêne qui a su résister à toutes les tempêtes ? C'est une question qui peut sembler un peu légère, mais je crois qu'il vaut vraiment la peine d'essayer d'y répondre pour soi-même, parce que ça peut amener à des réflexions moins anodines qu'il n'y paraît. Pour notre psalmiste, en tout cas, les croyants ressemblent à des palmiers et à des cèdres, deux arbres emblématiques du Moyen-Orient. Il dit « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Alors le palmier auquel le psalmiste pense, c'est un arbre qui pousse droit, qui pousse haut, qui donne beaucoup de fruits et qui est particulièrement résistant à la sécheresse. C'est un symbole de vie dans le désert des oasis. Et le cèdre, lui, c'est un arbre qui ne craint ni le froid, ni l'humidité. Et il est remarquablement stable. Une fois qu'il est planté, qu'il a poussé, il est quasiment inébranlable. Ces deux arbres qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'herbe des méchants dont il était question tout à l'heure. Une herbe qui ne peut que pousser au ras du sol. Dans ces arbres-là, qui sont solides, qui sont résistants, ils s'élèvent haut vers le ciel et ils s'épanouissent. Parce qu'il faut dire qu'ils sont plantés dans un endroit particulièrement sûr. Le psalmiste nous dit qu'ils sont plantés dans les cours du temple de notre Dieu, c'est-à-dire pour le peuple de l'Ancien Testament, au plus près de la présence de Dieu. Ils sont enracinés dans la communion avec Dieu. Et la vitalité de ces arbres demeure, malgré le temps qui passe. Le psaume dit « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Il ne nous est pas dit ici que ces arbres qui demeurent près de Dieu restent toujours jeunes. On sait bien que ce n'est pas possible. Quand le psalmiste utilise cette image pour parler des anciens, il n'est pas dans le déni de l'âge et des difficultés qui l'accompagnent. Il parle d'une vieillesse, bien réelle, mais d'une vieillesse qui continue de porter du fruit, malgré tout. Quand il dit qu'ils sont pleins de sève, il parle là d'une force spirituelle. Peut-être une force spirituelle qui ne saute pas aux yeux, une force spirituelle peut-être discrète, mais qui est bien réelle et qui sans cesse puise des ressources nouvelles dans la communion avec Dieu. Une communion qui ne flétrit pas, mais qui continue de prospérer. Paul exprimera une idée semblable avec ses propres mots quand il voudra encourager les chrétiens de Corinthe. Il leur dira, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors quels peuvent être ces fruits portés dans la pleine maturité? J'aimerais m'arrêter sur l'un d'entre eux en particulier. Terminé. J'ai lu quelque part qu'un palmier, même vieux, peut produire encore énormément de dattes. Et qu'un cèdre, même très âgé, donne encore énormément de graines. Ces arbres, même très âgés, ils ont la capacité à donner vie à d'autres arbres après. Et je crois que c'est un peu la même chose dans l'Église. Ce n'est jamais nous qui suscitons la foi, ça c'est sûr, seul Dieu en a le pouvoir. Mais la foi des plus expérimentés peut favoriser, tellement favoriser la croissance de ceux qui arrivent après eux. Elle peut favoriser le chemin de leur foi vers la maturité. Elle peut encourager, écouter, protéger, avertir, conseiller, inspirer, prier. Oui, un fruit que les anciens peuvent tout particulièrement offrir. Celui de la sagesse acquise avec le temps et du témoignage de décennies de vie vécues aux côtés du Seigneur. Une sagesse et un témoignage qui peuvent reconnaître et qui peuvent dire la bonté et la fidélité de Dieu, dans les joies comme dans les difficultés. À la fin de leur vie, nous dit le psalmiste, le cèdre et le palmier, ils ont pour mission d'annoncer que l'Éternel est droit, c'est-à-dire d'attirer toujours plus l'attention sur Dieu et sur qui il est. On voit là que la louange, ici, elle dépasse le cadre du chant des instruments. Elle devient le fruit de toute une vie orientée, tendue jusqu'au bout vers le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui demeure quoi qu'il arrive. C'est ce qu'affirme le psalmiste dans sa toute dernière parole de louange. Il dit « Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. » Tous les arbres finissent par passer et disparaître, c'est vrai. Mais le rocher sur lequel ces arbres sont plantés, ce rocher, lui, il ne disparaîtra pas. On peut s'y appuyer depuis l'aube de nos existences jusqu'au soir de nos vies. On peut s'y appuyer jusque dans l'éternité. Il y a là encore une raison de plus de le louer. Oui, vraiment, il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. Ce verset, chanté par un croyant d'il y a bien longtemps, il ouvre notre psaume, mais il pourrait tout aussi bien le conclure. Car il contient un appel à la louange, à l'émerveillement. Il n'attend plus que toi et moi pour être vécu encore aujourd'hui. Amen. Amen.
Nous allons chanter ensemble « Merci pour la croix », le louer pour ce qu'il a fait pour nous.
Avant de prendre la scène ensemble, prenons un instant pour nous arrêter, pour tourner nos regards vers la croix. Là où l'amour s'est donné, là où la grâce a coulé, là où Jésus a tout accompli pour nous. Écoutons ces paroles en Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Laissons nos cœurs se souvenir, se remplir de reconnaissance et d'humilité. Chantons doucement, merci pour la croix.
on a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui
La scène est un moment où nous nous souvenons que Jésus a donné son corps et son sang pour notre salut. C'est vrai qu'il ne faut pas s'accoutumer et se dire c'est un petit moment où on va prendre un petit morceau de pain, on va se nourrir, on va prendre un petit coup de vin, et c'est vraiment quelque chose de très important que la scène. Chaque fois que nous participons à ce repas, nous affirmons notre foi en Jésus. Nous affirmons notre foi en Jésus. Nous rappelons sa présence au milieu de nous. Ce temps est aussi un appel à l'examen de soi pour nous approcher avec un cœur sincère dans la paix et le pardon, un temps de respect, de recueillement et d'intimité avec Dieu. Il nourrit notre foi, renouvelle notre engagement pour lui. Et je lirai dans 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La scène célèbre à la fois une souffrance passée et annonce la présence vivante de Christ au milieu de nous.
Je vous invite à la prière. Et Seigneur, tu nous as créés pour vivre en communion avec toi. Et même si nous nous sommes détournés de toi, même si notre péché nous a éloignés de toi, toi, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu n'as jamais cessé de nous manifester ta bonté et ta fidélité. Et cette bonté, cette fidélité, elles ont culminé en Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous libérer du péché, de la mort, du mal. Grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons maintenant vivre en communion entière avec toi. Merci Seigneur. Nous t'en prions par ton esprit. Viens rendre ces vérités vivantes à notre cœur. Viens renouveler notre émerveillement devant ce que tu as fait pour nous. Viens nous conduire à une véritable louange. Viens nous conduire dans l'adoration. Nous t'en prions. Amen.
Pour ceux qui souhaitent qu'on leur passe la coupe plutôt que le petit gobelet, vous donnez simplement la main.
C'est Jacques, RDR, qui passera vers vous.
On va maintenant avoir un temps d'offrande. On vous rappelle que c'est pas une obligation, mais on vous rappelle aussi que notre Église vit uniquement des dons. Voilà, alors vous avez le lien Twint aussi si vous voulez. Et puis, je vais passer les corbeilles.
Nous quitter, encourageons-nous les uns les autres à nous approcher de Jésus et à rechercher sa lumière chaque jour. Car sa lumière ne s'éteint jamais. Elle nous relève, nous guide et remplit nos cœurs d'espérance. Peu importe ce qui nous attend, nous savons qu'il marche avec nous et qu'en lui, il y a la vie et la joie. Alors avançons avec confiance, les regards tournés vers lui, chantons avec joie, éblouis. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre.
Je vais encore prier pour l'offrande. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette liberté de nous réunir ensemble. Tu nous donnes aussi les moyens de pouvoir te donner ce que nous te donnons librement et joyeusement. Et nous te remettons maintenant tous ceux qui seront en charge de répartir cet argent pour qu'ils le fassent dans ta dépendance. Amen.
Amen.
Alors, très peu d'annonces aujourd'hui. On me signale juste que dans 15 jours, le 31 mai, quand on aura notre repas communautaire, il y aura pour la première fois depuis fort longtemps la garderie qui sera de nouveau ouverte pour les enfants au sous-sol. Et puis, pendant le temps qui suivra, donc on aura un repas communautaire. Et pendant ce temps-là aussi, il y aura une prise en charge des enfants. Parce que c'est un temps pendant lequel on aimerait discuter de la façon dont on aimerait rebooster quelque part les rencontres de prière dans notre église. Donc ce sera un temps qui sera dédié à des discussions, des partages, et pendant ce temps-là, les enfants seront pris en charge. Voilà, je vais encore juste donner la parole à Véronique pour la bénédiction.
Je vous invite à vous lever. Nous avons entendu tout à l'heure un psaume. J'aimerais vous en lire encore quelques versets. Versets tirés du psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Que cet appel, ce nouvel appel à l'émerveillement et à l'adoration nous accompagne tout au long de cette semaine. Le Seigneur vous bénit. Il vous précède et il vous accompagne de sa bonté et de sa fidélité. Allons dans la joie et dans la reconnaissance. Amen.
Amen.
Et bon dimanche à toutes et à tous.